Etur Jesus Christus.
Le Hamas menace de reporter la prochaine libération d'otages détenus à Gaza. Israël dénonce de son côté une violation totale de la trêve. Et alors que celle-ci risque de voler en éclats, Donald Trump promet un véritable enfer si les otages israéliens ne sont pas libérés samedi. On fait le point après les titres. Dans ce journal, nous entendrons le secrétaire général de la Caritas qui dénonce la suspension de l'aide humanitaire américaine. Elle condamne des centaines de millions de personnes à vivre dans une pauvreté déshumanisante. L'est de la RDC est également fragilisé par la suspension de l'USAID. La province du Sud-Kivu a connu hier sa deuxième journée d'accalmie, tandis qu'au Nord-Kivu, les rebelles du M23 commencent à installer leur propre administration. L'Église reste mobilisée auprès des victimes, nous l'entendrons. Et puis le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Le président français a appelé hier à la mise en place d'une stratégie européenne, alors que Washington et Pékin mènent dans le secteur. Les dessous géopolitiques de cette course à l'IA dans notre dossier en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. L'accord de trêve entre le Hamas et Israël, plus fragile que jamais. Le porte-parole du mouvement islamiste palestinien menace de reporter la prochaine libération d'otages prévue ce samedi. Il accuse l'État hébreu de ne pas respecter ses engagements, tout particulièrement le volet humanitaire de l'accord de cessez-le-feu. Cette menace du Hamas est vue comme une violation de l'accord côté israélien. Le ministre de la Défense israélien a ordonné à son armée de se préparer à tous les scénarios possibles. Hier, les militaires ont renforcé la zone autour de la bande de Gaza. À Jérusalem, les précisions de Valérie Ferrand.
Le Hamas a annoncé sa décision après avoir tenu au courant les médiateurs qataris et égyptiens durant ces dernières semaines, les agences des Nations Unies ainsi que les services médicaux et la défense civile dans la bande de Gaza ne cessent en effet d'alerter sur les procédures israéliennes qui ralentissent le passage des convois chargés de produits de première nécessité. Israël empêche également l'entrée des camions transportant des centaines de milliers de tentes et de caravanes ainsi que des équipements pour dégager les corps des personnes tuées et toujours ensevelies sous les gravats. Mais si la question est d'abord humanitaire, elle est également politique. Empêcher l'aide de parvenir aux populations civiles est perçu comme servant les plans du gouvernement de Benjamin Netanyahu et du président Trump pour mettre en œuvre l'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza. Le Hamas a parallèlement réaffirmé sa détermination à poursuivre la mise en œuvre de l'accord tel que signé et attend à présent que la puissance occupante respecte tous ses engagements et en priorité le protocole humanitaire. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et Donald Trump a réagi dans la foulée, promettant un véritable enfer au Hamas si les otages n'étaient pas tous ramenés avant samedi midi. Une exigence qui va plus loin que l'accord de trêve qui prévoit dans sa première phase la libération de 33 otages. 16 ont été relâchés depuis le début du cessez-le-feu. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, le président américain a précisé ses intentions pour la bande de Gaza, quelques jours après l'annonce d'une prise de contrôle américaine du territoire et d'un déplacement des Palestiniens, propos largement condamnés par la communauté internationale. Mais l'intention a été confirmée par Donald Trump, qui explique vouloir construire un endroit permanent pour les Gazaouis, au motif que l'enclave palestinienne n'est actuellement pas habitable. Dans la même interview, Donald Trump a évoqué lundi la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour, annonce à quelques jours de la rencontre annoncée en fin de semaine de Volodymyr Zelensky et du vice-président américain J.D. Vance en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. Le président républicain américain a également déclaré vouloir récupérer une partie de l'aide financière américaine apportée à Kiev depuis le début de la guerre. Les tendances isolationnistes de Donald Trump ne sont pas sans conséquences. Dans un communiqué, Caritas Internationalis dénonce la décision de la nouvelle administration de réduire drastiquement l'USAID, l'agence chargée de l'aide humanitaire dans le monde. Un choix qui tuera des millions de personnes et condamnera des centaines de millions d'autres à vivre dans une pauvreté déshumanisante. De nombreuses régions du monde sont impactées. Les populations civiles et les plus pauvres seront en première ligne, explique Alistair Dutton, secrétaire général de la Caritas.
Nous savons bien les pays où les besoins de l'aide humanitaire sont les plus forts. Dans le Soudan, il y a 750 000 personnes qui sont à ce moment en famine. S'ils n'auraient pas la nourriture, ils vont mourir. Cette décision va les tuer. Et aussi, nous avons la famine en Yémen et en Gaza. Nous l'avons vu. Il faut que nous sommes capables de maintenir l'assistance de nourriture pour ces populations. Mais aussi, il y a millions de personnes qui sont jusqu'aux frontières de famine, au point de mourir s'ils ne reçoivent pas l'assistance. L'aide humanitaire sauve les vies. Et si on ne donne pas l'aide humanitaire, on perd les vies.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Accalmie à Goma depuis 2 jours, selon les témoignages recueillis notamment par l'AFP. Mais ce n'est pas pour autant que le sort de la population s'est amélioré sensiblement. L'urgence humanitaire existe bel et bien. L'Église catholique est en première ligne pour apporter un peu de réconfort aux habitants et aux déplacés. La CAFOD, l'agence d'aide de l'Église d'Angleterre et du Pays de Galles, est présente sur le terrain. Bernard Balibuno, son directeur en RDC, revient sur la gravité de la situation. On l'écoute.
Whenever the crisis starts, the Catholic Church is always there.
Quel que soit le point de départ de la crise, l'Église catholique a toujours été là, avant, pendant et après la crise. L'Église a toujours été présente et maintenant elle répond rapidement alors que de nombreuses autres organisations ont quitté la zone. Dès que la ville de Goma a été prise, avant même qu'Internet n'y soit rétabli, nous avons été en contact avec Caritas Goma et avec l'Église anglicane pour partager avec eux les fonds d'urgence afin qu'ils puissent répondre eux aussi directement aux besoins. Car la situation humanitaire est vraiment catastrophique. Déjà, avant la guerre, il y avait 400 000 déplacés dans des camps situés autour de Goma. Maintenant, tous ces camps ont été démantelés au fur et à mesure que les gens s'en allaient et que les bombes y tombaient. Maintenant, la plupart de ces gens vivent dans des conditions très difficiles. Ils se retrouvent dehors. D'habitude, ils sont logés dans des familles d'accueil, mais ces familles elles-mêmes doivent lutter pour vivre. La situation est donc très complexe.
So the situation is very, very complex.
Des propos recueillis par Linda Bordoni de la rédaction anglophone de Radio Vatican. L'Église d'Angleterre est entrée en synode hier. Elle doit élire le successeur de Justin Welby, démissionnaire suite à la publication d'un rapport mettant en lumière des manquements dans la gestion des abus sexuels. Les 500 membres du synode général sont également appelés à redéfinir les règles en vue d'une gestion plus efficace des plaintes des victimes. Ce synode doit répondre par des actes et pas seulement des mots, a déclaré l'archevêque Stephen Cottrell, chef par intérim de l'Église d'Angleterre. La confusion s'accentue en Roumanie. Le président sortant, Klaus Iohannis, dont le mandat devait s'achever à la fin de l'année dernière, vient de démissionner. Sur fond de mécontentement des électeurs après l'annulation de la présidentielle en décembre dernier, le président a justifié sa décision par sa volonté d'épargner un pays au pays une crise, tout en étant initialement prêt à rester au pouvoir jusqu'au nouveau scrutin le 4 mai. Les précisions depuis Bucarest d'Alex Diaconescu.
C'était une décision attendue par grande partie des Roumains pro-européens et souverainistes à la fois. Lundi dans l'après-midi, le président roumain Klaus Iohannis a annoncé sa démission alors que le Parlement aurait dû examiner une demande de destitution avancée par les partis d'extrême droite de l'opposition. C'est une démarche inutile, a publié Klaus Iohannis sur les réseaux de partage, soulignant que de toute façon, il aurait dû quitter ses fonctions après les élections présidentielles en mai. Son second et dernier quinquennat a été prolongé suite à la décision de la Cour constitutionnelle en décembre dernier d'annuler les élections présidentielles à cause d'ingérence d'un acteur extérieur, c'est-à-dire la Russie, en faveur de celui qui a remporté le premier tour, l'ultranationaliste Kalin Georgescu. C'est le président du Sénat, le libéral Ilie Bolojan, qui sera président par intérim, alors que les Roumains auront le choix en mai entre la poursuite du chemin euro-atlantique et le candidat du bloc nationaliste, critique de l'UE et de l'OTAN et farouche opposant à tout soutien à l'Ukraine. Bucarest, Alex Diaconescu pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un mot du Forum mondial des peuples autochtones du FIDA, Fonds international de développement agricole qui se tient en ce moment à Rome. Le pape François a adressé un message aux participants dans lequel il dénonce l'accaparement croissant des terres agricoles par les multinationales, les grands investisseurs et les États, ainsi que les pratiques néfastes qui menacent le droit à une vie digne des communautés locales. Un industriels, investisseurs, experts du secteur, mais aussi ONG, universitaires et membres de la société civile. Tous se succèdent à la tribune du sommet sur l'intelligence artificielle organisé depuis hier à Paris. Aujourd'hui, c'est au tour des chefs d'État d'entrer en scène. Une session plénière doit réunir aujourd'hui les dirigeants mondiaux rassemblés pour définir les bases d'une gouvernance mondiale de l'IA. Monseigneur Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, y représentera le Saint-Siège. À la croisée de divers secteurs d'application et de nombreux acteurs publics comme privés, l'IA chamboule les rapports de force internationaux. L'IA fait désormais l'objet d'une compétition mondiale et polarise la rivalité entre la Chine et les États-Unis, tout en renforçant leur domination sur le reste du monde. C'est dans ce contexte qu'hier, le président français Emmanuel Macron a appelé à la mise en place d'une stratégie souveraine européenne. Éclairage ce matin avec le chercheur Charles Thibault, docteur en sciences politiques de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions géopolitiques du numérique.
Entre les États-Unis et la Chine, on a véritablement une politique de priorité nationale autour de l'intelligence artificielle avec un État, dans les deux cas, un État extrêmement interventionniste, notamment en termes d'investissement public, mais aussi en termes de contrôle des acteurs économiques qui vont développer ces technologies. Ce qu'on n'a pas en Europe, dans la mesure où on est plutôt dans un modèle de développement néolibéral qui a tendance, certes, à investir, à donner pas mal d'argent public finalement aux acteurs privés, mais sans véritablement demander de contrepartie. Or, on sait que pour que les intérêts privés se coordonnent avec l'intérêt général, on a besoin qu'une autorité publique indépendante de type étatique, eh bien, en fait, soit là pour diriger leurs investissements et leurs initiatives.
Vous avez utilisé le concept de course, on va dire, à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut aussi y lire dans l'approche des États-Unis et du coup de Donald Trump avec le lancement de Stargate un parallèle avec lors de la guerre froide, la guerre des étoiles de Ronald Reagan? Est-ce que elle ressemble un petit peu aussi à cette course à la Lune qui a pu y avoir par le passé et à l'espace en général?
Oui, tout à fait. Alors, même s'il faut mettre de côté ce qui est l'enjeu réel derrière ce développement d'intelligence artificielle et puis le discours, la rhétorique, on entend encore parler de ce moment Spoutnik qui est en référence finalement au lancement du premier satellite artificiel par la Russie en 1957. Il faut évidemment raison garder, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un discours qui est là pour mobiliser tout un système productif technoscientifique de sorte en fait de recréer de la croissance, de l'emploi dans une situation finalement de crise économique chronique. Donc il y a ce côté un petit peu performatif côté américain, c'est-à-dire on essaie d'inciter les acteurs finalement à investir davantage dans ces technologies en pensant que ça créera effectivement de l'emploi et de la croissance. Après il y a un second niveau de lecture qu'il faut avoir, c'est qu'il y a une sorte de fantasme qui s'est emparé des esprits des dirigeants politiques et économiques mondiaux selon lequel en fait celui qui, d'ailleurs selon le terme qu'on connaît bien, de la phrase qu'on connaît bien de Vladimir Poutine, hein. Celui qui deviendra leader en intelligence artificielle sera le maître du monde. Et je crois qu'il faut en fait prendre cette phrase pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un fantasme, avec l'idée qu'effectivement celui qui parviendra au plus haut degré de sophistication de l'intelligence artificielle, eh bien réussira dans tous les domaines à devancer et à subjuguer éternellement tous ses rivaux. Et ça, effectivement, quand vous avez ce fantasme en tête, le développement de l'intelligence artificielle devient effectivement une priorité nationale.
Qu'est-ce que vous entendez par fantasme ?
Vous avez des intérêts économiques derrière. C'est-à-dire que, en gros, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée qu'on va atteindre des gains de productivité dans tous les secteurs d'activité humaine extraordinaires par une substitution généralisée des machines aux êtres humains. Et donc, évidemment, quand vous avez ça en tête, en fait, tous les acteurs économiques, par exemple, de la planète, sont extrêmement friands de ce fantasme parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous passer de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, ça a toujours été dans l'histoire économique, dans l'histoire du capitalisme, même en fait, la pierre, le caillou dans la chaussure de tout investisseur, de tout entrepreneur. Donc là, on vous promet que finalement, vous n'aurez plus besoin de main-d'œuvre pour produire. Et en plus de ça, vous aurez des machines qui, d'une part, coûteront moins cher et seront beaucoup plus performantes. Bon, ça, c'est effectivement un vecteur de fantasme extrêmement puissant. Et puis, du côté des États, vous avez un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme austéritaire en termes budgétaires. Et donc, l'idée qu'on puisse se passer de fonctionnaires et qu'on puisse les remplacer par des machines qui coûteront moins cher et qui seront plus performantes, là aussi, ça fait son chemin dans la tête des dirigeants politiques du monde entier. Il faut avoir tous ces éléments en tête pour comprendre en fait la dimension fantasmatique derrière cette course à l'intelligence artificielle.
Charles Thibault, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions géopolitiques du numérique, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient à 13h heure de Rome. Belle matinée à toutes et à tous en attendant.